nous nous retrouvons pour une série
nous nous attachons à quatre faits marquants de l'autre
vie. Passer une demi-heure ensemble pour
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Focus s'intéresse aujourd'hui aux travaux d'une jeune professeure des écoles. Elle vient de recevoir le premier prix ex aequo de la main à la pâte 2008 pour la réalisation de son mémoire qui pose la question suivante. Comment aborder le monde du vivant en maternelle? Sandrine Guillaumin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy et félicitations pour ce prix qui, je le rappelle, vise à promouvoir au sein de l'école primaire une démarche d'investigation scientifique. Vous entrez tout à fait dans le moule puisque vous avez un parcours vous-même scientifique, études de biologie et écologie à l'université, et vous aviez envie, comme vous le rappelez dans le préambule de votre mémoire, envie de faire partager votre passion à vos jeunes élèves de petite et de moyenne section. Alors vous avez choisi de porter l'attention sur le monde végétal et d'aborder ainsi le concept du vivant qui fait appel à l'abstraction. Précisons que pour des jeunes élèves, les végétaux ne sont pas vivants, nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Alors avant d'en venir à votre expérience qui consistait à faire émerger le concept de végétaux être vivants à travers la germination de petites graines, peut-être pourriez-vous nous préciser quelles sont les étapes clés de l'abstraction à la petite enfance. Vous commencez par Jean Piaget, qui est un psychologue logicien, qui rappelle dans son livre « La représentation du monde chez l'enfant », ce qu'est l'artificialisme intégral, le mélange d'artificialisme et l'explication purement naturelle.
Oui, donc l'artificialisme, c'est qu'en fait, donc les enfants vont avoir tendance à répondre à leurs questions, à donner des explications au monde qui les entoure. Donc, en s'inventant, entre guillemets, des explications qui ne sont pas forcément réelles. Donc, comme je disais, l'artificialisme mythique, pour eux, s'il pleut, c'est parce que, par exemple, un être féerique va pleurer sur son nuage là-haut. Voilà, c'est une explication qu'ils se donnent pour répondre à leurs questions, et pour eux, donc, ça leur suffit. Voilà, bien que ce ne soit pas du tout scientifique.
Et donc, ça correspond à des âges bien précis.
Voilà, à des âges bien précis. Donc, ça, c'est l'artificialisme mythique. Après, plus tard, ils vont évoluer et avoir tendance à faire intervenir l'homme, c'est-à-dire, en quelque part, un petit peu eux-mêmes, avec l'artificialisme technique. Donc, je cite dans mon mémoire l'exemple où, par exemple, les montagnes existent parce que ce sont les hommes qui ont tassé des cailloux et n'arrivent pas à se représenter les choses par des phénomènes réellement naturels et scientifiques. Il faut toujours intervenir l'homme, c'est-à-dire quelque part eux-mêmes. Ils rapportent tout à eux.
À quel moment ils commencent à avoir une explication que vous qualifiez de purement naturelle? Quel est le stade? C'est quand il entre en école primaire? Parce qu'il y a d'autres connaissances qui interviennent?
Alors ça, c'est surtout, c'est vrai, en maternelle, et petit à petit, quand ils commencent à rentrer donc à l'école élémentaire, au CP, au CE1, quand le langage intervient, ils arrivent à s'en détacher et à avoir des représentations beaucoup plus réelles.
Alors, venons-en peut-être à votre expérience que vous avez menée au cours de cette année. Donc, tous les lundis, vous aviez avec vous une classe de petite et de moyenne section maternelle.
Voilà, c'est ça. C'est une classe à double niveau. Voilà.
Avec 17 élèves.
Donc, j'avais 17 élèves de petite section et 10 de moyenne section. Mais l'après-midi, il y a certains élèves de petite section qui ne reviennent pas. Comme c'est la première année de maternelle, j'en avais que 10 l'après-midi. Donc, j'ai pu faire deux groupes de même effectif pour pouvoir travailler et comparer plus facilement.
Alors, pourquoi avez-vous choisi justement de vous intéresser à l'abstraction à travers les plantes, l'abstraction du vivant?
Alors, parce que d'une part, les enfants ont du mal à... Enfin, pour eux, les jeunes enfants, ils comprennent les choses concrètes qu'ils peuvent manipuler, qu'ils veulent voir. Ils n'arrivent pas à s'imaginer aller au-delà de ce qu'ils voient. Donc, faire preuve d'abstraction, c'est déjà très difficile. Et j'ai choisi le monde végétal puisque je voulais travailler sur le vivant. Et pour eux, les végétaux qui sont immobiles, qui ne bougent pas, ils n'arrivent pas à aller au-delà et s'imaginer que ça peut être vivant. Donc c'était un moyen de pouvoir manipuler en classe et puis d'extrapoler en quelque sorte et de leur montrer que faut pas toujours se fier à ce qu'on voit et que voilà, il faut réfléchir en comparant avec des animaux par exemple.
Alors la première séance, oui. Il me semble, vous avez apporté des photos. oui. de plusieurs objets différents et il fallait en fait les ranger dans des boîtes particulières, vivants ou non
voilà.
vivants. Donc vous aviez une peluche, une carotte, le chat, une photo de chat, une fleur, l'aspirateur du coin de cuisine, la voiture, une graine de haricot, un caillou, le soleil, une photo de poisson, une photo d'oiseau et les arbres, enfin les arbres de la cour. Voilà. Alors comment ils ont classé ça, Sandrine Guillaumin?
Donc bon, alors en général, les animaux sont bien considérés comme vivants. Notamment bon, le chat, puisque c'est un animal qui touche leur affectif, je dirais. Donc tout ce qui touche à leur affectif, ils aiment bien, ils s'en sentent proches. Donc ça, c'est vivant, ça bouge, ça fait miaou, donc ça parle, c'est bien vivant. Tout ce qui était objet, c'est assez mitigé. Notamment l'aspirateur, quelque part, il ronfle, il bouge.
Il est
comme
vivant.
Une voiture, donc pour eux, c'était vivant. Voilà. Du moment que l'objet bouge, c'est vivant. Et par contre, les végétaux ou une plante, un arbre, ça paraît très, très inerte. Donc ça allait bien dans le sens où je voulais, puisque ils avaient des conceptions erronées bien dès le départ.
Alors, arrive la deuxième étape qui est le questionnement scientifique productif.
C'est un gros mot, oui.
Alors, justement, pourriez-vous nous détailler en quoi ça consiste, ce questionnement scientifique productif?
Alors, en fait, dans la démarche scientifique à l'école primaire, c'est la question, point de départ qui va mener à conduire à faire toutes les expériences pour répondre à notre question. Donc là, c'était très mitigé. Donc par exemple, une plante n'est pas vivante, mais est-ce qu'on est sûr une graine n'est pas vivante? Comment on peut le savoir? Donc là, c'est ce qui va déclencher toute une série d'expériences, toute une série d'idées pour vérifier cette réponse, quoi. Certains élèves pensaient que oui, d'autres que non. Donc pour trancher, si vous voulez, pour les départager, il faut manipuler, il faut voir.
Alors, si vous voulez, abordons plus en détail cette question.
Oui.
Comment faire pour savoir si une graine est vivante? Donc là, vous avez plusieurs réponses d'élèves. Alors, vous avez, il faut la mettre dans le jardin. Et puis, vous avez également, il faut la mettre dans la terre. Donc, ils ont quand même une notion, quelque part, consciente ou inconsciente, que pour faire pousser, pour faire germer, puisque ce sera le terme après technique employée, il y a tout un dispositif à utiliser.
Voilà, quelques-uns quand même ont vu leur papa ou leur maman planter dans le jardin et ont bien vu que quelque chose sortait de la terre. Mais ils avaient quand même cette idée que si l'homme n'intervient pas pour planter cette graine, il se passera rien. Il faut quand même l'intervention de l'homme, alors que une graine peut bien pousser toute seule dans la nature.
Alors ensuite, vous posez la question suivante, de quoi avons-nous besoin pour planter les graines?
Oui.
Alors quelles sont leurs réponses?
Donc la plupart ont bien pensé à la terre. Donc dans le jardin, on plante dans la terre, ou maman, elle a des plantes dans la maison, dans de la terre. Donc ça, ils ont pensé à la terre. L'eau, j'ai un élève qui me l'a suggéré, ça aurait pu ne pas être le cas, puisque s'ils ne l'ont pas vu, ça pouvait pas forcément être spontané. J'ai eu la réponse, donc j'ai gardé cette idée. Et puis, je crois qu'il y a un élève qui m'a suggéré aussi la lumière. Donc
le soleil.
Le
oui.
soleil. Donc bon, c'est plus pour la plante que pour la graine d'un point de vue scientifique. La graine n'a pas besoin de lumière pour pousser. Mais c'était quand même très étonnant de la part d'un petit enfant de 3 ans de penser à ça. Donc c'est ça qui est riche, c'est que chacun a sa petite idée, chacun apporte son idée. Et on en discute et c'est toujours sujet à débat, à discuter ensemble. Donc encore la verbalisation. Voilà, j'en parle beaucoup dans le mémoire. À 3 ans, c'est important de parler de ces idées, de les confronter.
Et justement, donc petite et moyenne section, je suppose que vous deviez observer des réactions bien différentes, parce qu'entre 3 ans, 4 ans et 4-5 ans, il doit y avoir quand même des réactions bien particulières.
À 4 ans, c'est vrai que les réponses ont été beaucoup plus spontanées, beaucoup plus riches. Et à 3 ans, d'une part, l'enfant est plus timide, plus réservé, bien que je l'ai prenais en petit groupe de 10. Et c'était beaucoup plus facile de travailler avec les moyennes sections qu'avec les petites sections. Oui.
Même si après, on verra plus tard, au niveau des résultats, vous avez parfois des résultats similaires.
Ça n'empêche pas que dans leur petite tête, ça cogite, mais ils ont plus de mal à mettre des mots sur les actions et sur ce qu'ils voient.
Alors une fois que vous avez établi avec eux ce qu'il fallait pour faire germer une graine, vous les laissez partir en vacances avec pour mission de faire germer une graine.
Voilà, de un petit peu de s'en occuper, de l'arroser. Et donc là, mon objectif était après déjà qu'ils me racontent ce qu'ils ont vu, donc toujours un problème de verbalisation, un souci de verbalisation pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils ont vu. Et puis, leur donner envie aussi, cette attente, j'ai bien vu leurs yeux pétiller à la rentrée, puis les parents m'ont bien raconté de tous les jours, ils allaient voir si la petite graine sortait, c'est leur donner envie aussi de s'en occuper, de voir que c'est vivant, qu'il se passe quelque chose, et c'est ça aussi les sciences, c'est leur faire prendre conscience de ce petit côté magique. Voilà, des végétaux.
Alors, parmi les réactions que vous avez notées dans votre mémoire, je me permets de les citer.
Oui.
Donc, 5 ou 6 citations. J'ai vu les petites graines se transformer en plantes. Donc, il y a une transformation. On est encore dans le domaine de la magie.
Tout à fait, voilà.
J'ai vu du verre sortir de la terre.
Voilà, donc là, pas de mots, pas de vocabulaire sur ces tiges, sur ces feuilles.
Les feuilles, elles sont devenues de plus en plus grosses. Ma plante, elle grandit et elle penche. Ma graine, elle a poussé comme les plantes de ma maman. Donc, comparaison.
Voilà.
Ma plante, elle a grandi très vite. Et enfin, j'ai vu des fils verts et des fils blancs. Est-ce que vous vous occupez également du vocabulaire? Puisque après, il y a des termes bien particuliers.
Oui. Donc là, je les ai... Donc justement, quand ils m'ont dit ça, j'ai noté tout ça sur une petite feuille pour moi. Et donc, j'ai renouvelé l'expérience. C'est ce que j'appelais les observations orientées en classe, dans un vivarium. Donc, d'un recommencé. Et au moment où ils m'ont resuggéré, redit ces phrases-là, c'est là que j'ai posé les termes de vocabulaire. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, etc. Et donc, c'est là qu'on a pu poser le vocabulaire en manipulant et en le revoyant ensemble.
Sandrine Guillaumin, après cette étape où vous notez toutes ces informations, les citations de ces enfants, vous travaillez après à partir des photos, des images de plantes qui vont évoluer.
Oui.
Et après, vous essayez de rétablir la chronologie avec ces élèves, ces jeunes élèves.
Oui.
Comment ça se passe? Quel est le taux de réussite de replacement des images dans le sens chronologique?
Le taux de réussite a été assez satisfaisant puisque ils ont bien vu qu'au départ il n'y avait rien en terre et que la plante grandissait. Il y a une citation, ma plante a grandi très vite, donc ils ont bien vu qu'elle poussait. Donc du plus petit au plus grand, c'est des notions petit-grand qui à cette époque de l'année ils maîtrisaient bien, surtout en moyenne section. Donc j'ai quand même eu une bonne réussite ici.
Et à partir du moment où ils se rendent compte qu'il y a une évolution de la plante, qu'elle grandit, ça veut dire qu'ils ont intégré l'idée que la plante était un être vivant.
Pour certains, oui. Ils ont vu que la plante évoluait, donc j'ai quand même eu un premier bouleversement, oui, des conceptions initiales et des représentations qu'ils avaient. Que c'était pas forcément statique, tout comme un arbre perd ses feuilles en hiver, donc c'est quand même pas comme un objet qui ne bouge pas. Qui vraiment, dans le temps, on voit des évolutions dans le temps. Donc on a pu commencer à se poser la question, ça craint l'effet de surprise, si vous voulez, chez eux. Donc, ça leur permet un petit peu de bouleverser leurs idées qu'ils avaient au départ.
Parmi les expériences que vous réalisez dans votre mémoire, vous mettez en valeur un tableau. Donc, vous recommencez les mêmes questions, à savoir est-ce que l'être humain est un être vivant,
oui.
Est-ce que le bonhomme est vivant, est-ce que la carotte est vivante ou pas. Et donc, il y a plusieurs élèves comme ça. Vous reprenez un tableau avec les réponses de plusieurs élèves. Et il y a un élève qui répond que la carotte est un être vivant, mais pas la fleur. Comment vous expliquez, alors que pourtant ça reste du domaine végétal, qu'il y ait cette différence ou encore cette confusion?
Je pense que la carotte, j'avais planté des graines dans le vivarium en classe et ils ont vu que la petite graine, les parois étaient transparentes. Donc, ils ont pu voir la petite graine se transformer, comme ils disent si bien, en carotte et que la carotte a grandi. Tandis que j'avais pas planté de graines de fleurs. Donc, je pense qu'encore là, ils l'ont vu de leurs propres yeux, donc ils le comprennent plus facilement. Voilà.
Et comment vous expliquez que pour certains d'entre eux, encore le soleil soit considéré comme un être vivant? On est toujours dans le domaine un peu féerique des dessins animés.
Alors, il y a une petite fille qui, pour l'évaluation au départ, le considérait comme non vivant, comme inerte, et qui finalement, à l'évaluation finale, le considérait comme vivant. Donc là, elle a fait le contraire de mon objectif. Mais après, elle m'a expliqué en me disant, mais dans les dessins animés, il bouge et il parle. Donc, je pense qu'il y a une petite confusion ici entre fiction, réalité. Et puis, si on regarde bien dans le ciel, après tout, le soleil bouge dans le ciel. Donc c'est vrai qu'on peut... On peut quand même leur pardonner ça, c'est vraiment le soleil, c'est vraiment, ou la lune, c'est vraiment quelque chose qui persiste longtemps chez les enfants, même plus grands.
Alors justement, parlons des enfants plus grands.
Oui.
Dans votre stage précédent, à la fin de votre mémoire, vous parlez de ce stage avec des CM1,
oui.
Où là, pareil, la notion d'être vivant dans le domaine des végétaux est encore un peu floue pour la moitié d'entre eux.
Même très très floue. Pour les animaux, c'est très clair, ils sont vivants. Et les végétaux, la plupart, peut-être les fleurs éventuellement, là pour le coup, ils arrivent à comprendre qu'ils sont vivants, mais tout ce qui est fruits, légumes ou autres végétales, ils ont des conceptions complètement erronées. C'est d'où le fait, justement, que dans mon mémoire, je souligne ça. Il faut commencer dès le plus jeune âge à leur parler, à les sensibiliser à ça. puisqu'après on voit qu'à 12 ans, ben, pour eux, les végétaux ne sont pas tous vivants. Voilà.
Et justement, est-ce que, quand on lit cette information, c'est assez surprenant. Alors, est-ce que c'est surprenant ou est-ce que c'est de l'ordre du normal, on va dire, de faire encore la confusion à cet âge-là?
Je pense qu'on peut tout à fait les excuser encore de penser qu'une tomate ou qu'une carotte soit inerte.
Soit inerte. Parce
que, bon, c'est vivant parce que ce sont des végétaux, ce sont des fruits. Voilà, ils n'ont pas assez de recul, ils n'arrivent pas à faire preuve d'assez d'abstraction. Je pense qu'ils sont tout à fait excusables.
Et dans votre mémoire, vous terminez en disant « C'est pourquoi nous devons retenir que la construction du concept du vivant est un travail de longue haleine,
oui,
qui doit se dérouler de la petite section de maternelle jusqu'à la fin du cycle 3,
oui,
troisième cycle. »
Voilà.
Donc c'est vraiment un travail sur le long terme,
pour
à travers
moi,
des petites expériences.
Oui. Moi, je pense que c'est bien de en petite section, moyenne section, tous les ans, si vous voulez, reprendre l'objectif. Après, on peut l'aborder de façon différente. Tous les ans, on va pas leur faire planter des graines, etc. Mais de l'aborder de façon différente, mais toujours pour leur montrer qu'au final, ils ont besoin d'eau, ils grandissent, ils se reproduisent comme nous, etc. Donc, ils sont vivants. Je pense que c'est bien de rappeler tous les ans. De toute façon, ceci fait partie des programmes.
Et les parents, puisque les parents vous en parlaient au
tout
cours
fait,
de
oui,
votre
oui,
mémoire, les parents se sont impliqués, ils ont répondu à
oui,
vos questionnaires et ils vous ont fait part aussi des réactions de leurs enfants lorsqu'ils étaient en vacances avec leurs petites graines.
Oui.
Je suppose qu'ils avaient leur rôle à jouer.
Ah oui, là, je les ai fait participer activement et j'ai eu une très très bonne coopération avec eux d'ailleurs, parce que ça, ce qui a contribué d'ailleurs au succès entre guillemets de mon mémoire, car ils ont vraiment, j'ai une bonne moitié des parents qui a vraiment joué le jeu, qui a bien marqué jour pour jour les réactions de leurs enfants. J'ai même une maman qui m'avait fait les dessins. Enfin, sa petite fille lui disait « Dessine pour la maîtresse ce que je vois, écris ça pour la maîtresse. » Donc, ça l'a vraiment tenu un journal sur les 2 semaines de vacances. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable que les parents s'investissent ainsi à mon projet.
Aujourd'hui, vous êtes professeur des écoles.
Oui.
Vous avez... Quelle classe avez-vous ?
Eh bien, donc je suis en brigade de remplacement, on appelle ça. Donc depuis que je la rentrée, donc j'ai eu des petites sections en CM2. Donc je suis appelée où on a besoin de remplacement. Donc c'est très enrichissant puisqu'on voit différents niveaux, différentes écoles, différentes façons de travailler. Donc là, j'ai pas de classe attitrée cette année.
Et est-ce que vous avez l'occasion, ou peut-être plus tard, ou peut-être déjà maintenant, de mettre à profit cette expérience pour la poursuivre, aller plus loin, ou tout simplement la renouveler?
Cette année, j'ai eu que des remplacements pour l'instant d'un jour, donc j'ai pas pu mener à long terme. De temps en temps, je m'amuse à leur poser des questions justement de ça. Au fait, c'est vivant quand on parle des animaux, ou qu'ils me lancent des petites réactions, des petites questions. J'en profite pour rebondir sur leurs questions. Mais c'est vrai, j'ai pas eu l'occasion, l'opportunité d'approfondir encore ce sujet.
Je vais vous lancer sur cette question puisque vous l'abordez dans
oui,
votre mémoire sur la poursuite
oui,
pour aller plus loin.
Mais je compte bien. D'ailleurs, j'ai ma collègue avec qui j'ai gardé contact qui les a donc qui a les moyennes sections en grande section cette année et qui a repris justement mon cahier d'expérience que j'avais commencé et qui continue à poursuivre ce travail. Donc je suis ravie qu'elle continue et qu'elle contribue à cette construction du vivant chez les enfants.
Eh bien, je vous remercie, Sandrine Guillemin, de nous avoir rendu visite ici jusqu'à Paris, ici à l'Institut de France. Nous allons donc vous laisser puisque vous allez d'ici peu de temps recevoir le fameux prix
oui,
de la main à la pâte 2008. Et j'invite nos auditeurs à écouter une autre émission avec cette fois-ci des personnes qui ont reçu une mention également à des travaux sur les maternelles. Donc, je les incite à écouter cette émission et bien sûr à aller faire un tour sur le site internet de la main à la pâte qui est très bien fait. Merci beaucoup, Sandrine Guillemin.
Merci à vous.
Et puis, on vous souhaite bon courage pour les prochaines années et déjà cette année actuelle de professorat.
Merci bien.
Au revoir.